perkeleen tontot!
Le vendredi, le métal fait son show sur Bac FM. Salut à tous, bienvenue dans l'émission Check Me Load. Nous sommes le 2 juillet. Alors, le centre-ville est un petit peu paralysé par le passage du Tour de France, hein, ce qui est bien normal. Mais j'ai quand même pu accéder au studio pour partager avec vous une heure de nouveautés métal et en direct. D'ailleurs, hormis deux albums qui sont parus aujourd'hui, eh bien, la sélection de cette édition, elle sera essentiellement consacrée à des disques qui sont parus vendredi dernier, le 25 juin, puisque exceptionnellement, bah, c'est une rediffusion hein, qui vous a été proposée ce jour-là. Donc, une séance de rattrapage, voire même deux, vont être nécessaires pour en faire le tour, tant ce 25 juin avait été riche en sorties. Du coup, ce que je vous propose, c'est de ne pas perdre de temps. On va tout de suite lancer le chronomètre et on va partir à l'assaut des sommets du métal. Une étape qui va nous emmener jusqu'au territoire Death, qui sera la grosse tendance de cette émission. Mais pour le premier sprint, eh bien, je vous propose du hard rock américain avec le nouvel album de Buck Cherry qui, souvenez-vous, avait frappé très fort avec l'excellent Warpaint il y a 2 ans et qui a fait un retour remarqué donc vendredi dernier avec Hellbound, un 9e album studio qui lui aussi pourrait bien marquer les esprits. Né dans le comté d'Orange en Californie au milieu des années 90, Buck Cherry, dont le nom est une contrepétrie de Chuck Berry, doit son existence à un tatoueur. Et oui, puisque c'est ce fameux tatoueur qui va faire se rencontrer le chanteur Josh Todd et le guitariste Keith Nelson, qui vont vite se découvrir une même passion pour le groupe AC/DC. Alors, une fois son line-up complété, le jeune combo va faire ses premières armes dans les clubs d'Hollywood, et là-bas, ben, son hard rock old school va déclencher l'enthousiasme du public. C'est donc fort d'une belle réputation scénique que Buck Cherry va continuer et va vite attirer l'attention des labels. Ils vont sortir en 99 un premier album éponyme qui va recevoir un accueil extrêmement positif aux États-Unis, où il sera certifié disque d'or. Et pourtant, malgré des débuts des plus prometteurs, eh bien, le deuxième album du groupe, qui s'appelle Time Bomb, qui sort en 2001, il est loin d'être autant acclamé que son prédécesseur. C'est un véritable échec hein, pour le groupe, qui va préférer se séparer, mais quand même, qui va revenir sur sa décision, qui va se reformer en 2005. Une sage décision, puisque depuis, il y a eu l'album 15, qui est sorti en 2006, et puis le succès va sourire de nouveau à Buck Cherry, qui va enchaîner. Alors, il y aura Black Butterfly en 2008, qui est très réussi, il y aura All Night Long en 2010, Confessions en 2013, Rock and Roll en 2015, Warpaint, que j'ai déjà évoqué en 2019, et Hellbound, son petit dernier, paru il y a tout juste une semaine. Hellbound qui marque l'arrivée d'un nouveau guitariste en la personne de Billy Rowe, une recrue de choix, puisque Billy Rowe sévit depuis 1983 au sein du groupe Jet Boy, que les amateurs de glam metal connaissent bien. En fait, pourquoi il y a un nouveau guitariste? Je vous ai parlé tout à l'heure du duo fondateur. Eh bien, celui qui était là au départ, pour ceux qui n'ont pas suivi la carrière de Buck Cherry, donc le guitariste fondateur Keith Nelson, il a quitté le groupe en 2017. Alors, dans un premier temps, il avait été remplacé par Kevin Rungan, qui est lui-même parti et qui a donc laissé sa place à Billy Rowe depuis quelques mois, depuis 2020. Revenons à l'album Hellbound. Alors, il a été composé durant le fameux confinement qui a bloqué à demeure une bonne partie de la planète. Il a ensuite été mis en boîte durant l'automne en seulement 10 jours. Ça s'est passé à Nashville, Tennessee, sous la houlette du producteur Marty Frederickson, qui avait déjà collaboré avec Buck Cherry sur son 4e album, Black Butterfly. Et ce producteur-là, on le connaît aussi pour son travail avec Aerosmith, avec Def Leppard. Et si certains artistes ont pu souffrir du syndrome de la page blanche durant la crise sanitaire, bah, ça n'a pas du tout été le cas de Buck Cherry, puisque le groupe a composé pas moins de 25 chansons, a même envisagé à un moment donné de sortir un double album avant de se raviser et d'enregistrer finalement que 10 de ses nouveaux titres. Une décision qui est quand même très raisonnable, puisque au final, Hellbound, c'est un album dynamique, accrocheur et sans temps mort. Les 10 titres qui figurent sur le disque sont inspirés, totalement maîtrisés par des musiciens au top, bah, qui apportent énormément de feeling, de relief à ce hard rock moderne. Et puis à tout ça, bah, il manquait plus que la magie apportée par l'excellent travail de production de Marty Frederickson, qui, en misant sur l'analogique, eh bien, offre à Buck Cherry un son plus chaleureux, plus organique que jamais. Alors, si vous avez un peu envie d'un peu de soleil de Californie, en ce moment, on a un peu de soleil, mais pas tous les jours, donc ça peut faire du bien. Hellbound, c'est l'album idéal pour accompagner votre été. En voici d'ailleurs un extrait avec le morceau titre Hellbound, un cocktail survitaminé bien plus efficace que le pot belge des coureurs cyclistes qui devrait vous filer donc ce titre-là, la patate pour tout le week-end. On écoute Buck Cherry sur Bac FM.
Down.
Buck Cherry avec le titre Hellbound, extrait de l'album du même nom paru vendredi dernier. Vous avez bien sûr remarqué l'hommage, j'imagine, totalement assumé à AC/DC, groupe auquel le chanteur Josh Todd voue un véritable culte. On retrouve d'ailleurs dans ce nouvel album de Buck Cherry cette même énergie communicative qui a fait la légende du groupe de Angus Young. En tout cas, pour moi, Hellbound s'inscrit d'ores et déjà comme un album incontournable de cet été. Vous écoutez l'émission Check Me Load sur Bike FM et voici maintenant deux nouveautés metalcore qui sont toutes les deux Made in USA. Alors il y en a une qui date de la semaine dernière du 25 juin et puis une autre qui sort aujourd'hui. On va donc commencer par celle qui est parue vendredi dernier. Il s'agit du quatrième album de Beartooth qui s'intitule Bilo. J'en avais déjà un petit peu parlé dans une spéciale single et qui témoigne de l'incroyable montée en puissance du combo mené par Caleb Chomo qui est littéralement en train de passer du statut de challenger à celui de leader d'une scène metalcore en pleine effervescence. Alors Beartooth, c'est un groupe qui nous vient de l'Ohio, de Columbus plus précisément. Et d'ailleurs, à sa naissance, en 2012, c'était le projet d'un seul homme. C'était le projet du chanteur Caleb Chomo, qui n'était pas un nouveau venu dans le milieu, puisqu'il a fait ses armes au sein du groupe Attack Attack, qui est un des groupes les plus décriés de l'histoire du metalcore, mais qui va offrir quand même une solide expérience pour Chomo. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va enregistrer tout seul, dans son sous-sol, l'album Disgusting de Beartooth, donc, qui paraît en 2014, et qui va faire sensation auprès du public hardcore et metalcore. Grâce à cette première production, Beartooth va cumuler des nombres assez incroyables de vues sur YouTube, et l'époque des moqueries endurées avec Attack Attack, elle est bel et bien révolue pour Caleb Chomo, qui se révèle en plus être un compositeur extrêmement doué, doublé d'un frontman redoutable. Et pour s'en rendre compte, il suffit de jeter une oreille aux albums suivants. Il y aura Aggressive en 2016, Disease en 2018. Et ce qui va se passer, c'est que Beartooth va réussir ce bel exploit de s'imposer en seulement 3 albums au sein d'une scène qui est en plein essor et où il y a beaucoup de monde. Et alors, aujourd'hui, on n'est plus sur un one-man band, on est sur un groupe à part entière, même si Chomo est toujours un peu derrière tout ce qui se passe. En tout cas, ce qui se passe cette fois-ci avec ce nouvel album, c'est que le groupe a poussé le curseur un peu plus loin avec Bilo, qui ouvre tout simplement une nouvelle perspective musicale pour ce groupe qui n'a pas peur de sortir de sa zone de confort et qui mélange ici habilement du metalcore avec des sonorités hardcore, mais ça on a l'habitude, mais qui a aussi choisi de casser les codes, de rebattre les cartes. Avec Bilo, Beartooth nous propose sa vision d'un metalcore très personnel qui n'hésite pas à s'acoquiner avec des sonorités trash, death, voire black metal, et ça le fait grave. Alors en plus, les thèmes abordés dans ce disque-là sont extrêmement sombres, donc ça colle tout à fait bien. Caleb Chomo y aborde avec la plus grande sincérité les tensions mentales qu'il a dû gérer l'an passé avec la crise sanitaire, le confinement. Faut savoir que c'est quelqu'un qui souffre de beaucoup de soucis, de dépression, comme beaucoup de musiciens, enfin comme beaucoup de monde en général. Donc voilà, un album sincère, très bien écrit, efficace. Voici tout de suite Beartooth avec le dévastateur Devastation, extrait de ce nouvel album intitulé Bilo. Got it! all of my power. There's nothing left to gain. It's the energy fading away from me. Energy fading away from me. Vous écoutez l'émission Check Melot sur Back FM avec à l'instant le titre Devastation du groupe Birtus. Il s'agit d'un extrait de Below, le quatrième album du groupe mené par Caleb Chaumeau qui est paru vendredi dernier. Et si vous êtes amateur de metalcore, vous allez avoir encore de quoi vous réjouir puisque aujourd'hui c'est au tour de Born of Osiris, dont j'avais déjà parlé aussi dans la même émission spéciale single que Birtus, de sortir un nouvel album intitulé Angel or Alien. Alors, Born of Osiris, c'est un groupe qui est issu de la fameuse scène metalcore de Chicago, dont fait partie également Veil of Maya, par exemple. C'est un groupe qui a été fondé en 2003 dans cette banlieue de cette grande ville américaine, autour de potes de lycée, parmi lesquels on trouve le chanteur Ronnie Canizzaro, le batteur Cameron Loesch et le clavier Joe Bourras, qui depuis 18 ans forment ensemble le noyau dur de la formation. Après être passés par plusieurs noms de scène, ils vont finalement devenir Born of Osiris en 2007. À cette même époque, le groupe va signer avec Sumerian Records et va sortir The New Reign, un EP qui va être très remarqué, sur lequel on constate déjà un sacré potentiel à travers des compos deathcore aux forts accents progressifs et djent, qui ne font qu'annoncer l'album A Higher Place qui va arriver quelques temps plus tard en 2009. Désormais à la tête d'une discographie composée de 6 albums, Born of Osiris, c'est un groupe dont l'univers musical a beaucoup évolué au fil des années, puisque le deathcore des débuts s'est petit à petit mué en metalcore, même si le combo de Chicago reste fidèle à ses origines et au son de cette ville, et ils mettent donc un point d'honneur à conserver et à cultiver ses sonorités djent et progressives. Et ça d'ailleurs on le constate très bien sur ce nouvel album, Angel or Alien, qui se distingue quand même de ses productions, enfin des dernières productions studio du groupe, en renouant un petit peu avec cette urgence, cette intensité qui avait fait toute la force d'albums comme The Discovery par exemple, qui était paru en 2011, qui fait aujourd'hui office d'album référence dans la discographie du groupe. Un sentiment d'urgence qui aurait pu résulter de la crise sanitaire, sauf que non, parce que l'album a été enregistré avant, juste avant le confinement d'ailleurs, c'était juste avant mars 2020, ils ont eu juste le temps, et c'est donc tout simplement l'état d'esprit des membres du groupe à ce moment-là que traduit le son d'Angel or Alien, qui est c'est la suite directe de The Simulation qui était paru en 2019. À travers ce sixième album, Born of Osiris explore quand même des thèmes qui se rejoignent et qui diffèrent un peu. Il y explore le thème de la perte et de la renaissance, des concepts qui lui ont été directement inspirés par des événements douloureux vécus notamment par le clavier Joe Bourras et par le chanteur Ronnie Canizzaro, qui ont tous les deux eu une rupture un peu difficile avant l'enregistrement du disque. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que tels des poètes maudits, nos deux musiciens ont transformé leur souffrance en force créatrice pour donner naissance à un album qui est riche, qui est coloré, qui va pas dépayser les fans du groupe, mais qui va quand même leur offrir une petite part d'exotisme. grâce à quelques expérimentations nouvelles qui fonctionnent plutôt bien. Moi, je trouve que Band of Osiris a vraiment su comment exploiter le meilleur de chacun de ses albums pour livrer un disque d'excellente qualité qui est à la fois mature et maîtrisé. Angel or Aliens, c'est une belle réussite et en voici justement un extrait avec le morceau titre Alien or Angel or Alien, je vous le dis dans le bon sens, en tout cas le groupe c'est Born of Osiris.
Angel or
Alien, c'est à la fois le nom du titre qu'on vient d'écouter et le nom du nouvel album de Born of Osiris qui paraît aujourd'hui. Le combo de Chicago signe un sixième opus très réussi qui mélange metalcore et djent tout en restant facile d'accès, même si vous n'êtes pas amateur de musique prog. Vous êtes toujours sur les ondes de Bike FM et puis on poursuit cette édition de Check Me Load avec deux lives maintenant. Alors depuis l'arrivée dans nos vies d'une certaine pandémie, on a malheureusement dû se résoudre à vivre la musique live à travers un écran. Une expérience qui est forcément extrêmement frustrante, qui quand même malgré tout a permis aux artistes quand même de se produire un petit peu et puis au public de profiter d'un petit peu de distraction par ces temps un peu durs. Du coup, depuis quelques temps, il y a beaucoup de ces événements live à distance qui paraissent en version audio et ou vidéo, et c'est le cas de ce Live from the Apocalypse de Lacuna Coil qui est paru vendredi dernier. Alors Lacuna Coil, c'est le plus américain des groupes italiens, et Lacuna Coil, c'est surtout une carrière impressionnante qui va débuter réellement à Milan au milieu des années 90, lorsqu'arrive la chanteuse Christina Scabbia, qui alors aujourd'hui elle incarne à elle seule le groupe, mais il faut savoir qu'au départ, lorsqu'elle est recrutée, c'est en tant que choriste. Affiliée à ses débuts à la scène metal gothique, Lacuna Coil va énormément faire évoluer son style pour se rapprocher de plus en plus et finalement intégrer la scène metal alternatif avec un son très US, hein, c'est pour ça qu'on dit que c'est le plus américain des groupes italiens. Ils vont commencer par un maxi qui va être plutôt remarqué en 98, et puis ensuite il va y avoir un premier album qui est In a Reverie en 99 qui va être encensé par les médias, mais c'est avec son troisième album Come Allies en 2002 que Lacuna Coil va rencontrer son premier gros succès commercial, le disque qui fait un carton jusqu'aux États-Unis. Et même si parfois on reproche à Lacuna Coil un son un peu trop aseptisé, trop calibré, on peut pas nier que sa discographie compte quand même quelques très belles pièces, comme par exemple l'album Karmacode, tiens, en 2006, pour vous en citer un, ou même sur ses dernières parutions, Delirium en 2016, Black Anima en 2019, qui sont ses albums les plus heavy, les plus sombres, sont pas mal non plus. Et justement, Black Anima, on en vient, puisque ça résonne un petit peu avec l'actu du groupe, et avec ce Live from the Apocalypse, qui est paru le 25 juin, qui... alors... ce live-là, ce n'est pas autre chose que le fruit d'une époque inédite où il a fallu innover, se réinventer. Alors évidemment, la pandémie faisait rage, les Italiens de Lacuna Coil, comme beaucoup d'autres artistes, ont pas pu faire leur tournée de promo comme ils l'entendaient, donc ils ont su utiliser la technologie intelligemment pour que leurs fans dévoués puissent malgré tout profiter d'une prestation live. Et pour ce faire, ils ont organisé en septembre 2020 un événement spécial en live stream, durant lequel ils ont interprété l'intégralité de cet album Black Anima. Un concert qui a eu lieu en direct de l'Alcazar Club, qui est le plus grand club de Milan, qui était vidé totalement, qui était totalement vide, il y avait que les musiciens et les techniciens. Et cet événement, si vous n'étiez pas connecté en live à l'époque, vous pouvez désormais le vivre ou le revivre à travers ce Live from the Apocalypse, qui restera le témoignage d'une drôle d'époque. En voici un extrait avec un titre qui s'appelle Bad Things. C'est certainement le seul titre que vous connaissez pas de l'album, puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce morceau-là, il est sorti à part quelques jours après le disque, et en fait, c'était un bonus exclusivement réservé à Amazon Music, donc pas tout le monde ne l'a écouté. Il est enfin disponible grâce à cette version live. Voici tout de suite Lacuna Coil sur Bac FM. It's time for bad things, my friends. Hope you're having a good time. Yeah.
master take control. Let things come, let things go. Let the monster take control.
Lacuna Coil sur Back FM dans l'émission Check Me Load avec un extrait de Live from the Apocalypse, le concert donné en live stream en septembre dernier par le combo italien en direct de Milan. Le titre que vous venez d'écouter, c'est Bad Things, qui dans sa version studio était paru en exclusivité sur Amazon Music en guise de bonus à l'album Black Anima et qui grâce à ce live est disponible pour tout le monde. Et puis j'ai oublié de le souligner, hein, mais ce Live from the Apocalypse, il est disponible dans divers formats audio et vidéo avec des formats physiques, des formats numériques, c'est comme ça vous arrange, comme ça vous plaît le mieux. Dans la même lignée est sorti également vendredi dernier l'album Devolution Series 2 Galactic Quarantine Live, la dernière folie musicale du déjanté mais ô combien talentueux Devin Townsend, qui lui aussi a choisi la technologie pour rester en contact avec ses fans durant le confinement, et lui il a choisi aussi une prestation unique en son genre. Alors Devin Townsend, c'est un sacré personnage, hein. Il a été découvert par Steve Vai, il va démarrer sa carrière en tant que chanteur aux côtés donc du guitar héros américain alors qu'il n'a que 19 ans, mais c'est en tant que frontman du groupe Strapping Young Lad qu'il va fonder en 95 qu'on va vraiment le découvrir, qu'on va découvrir son immense talent. C'est un artiste hors norme, on le sait déjà à l'époque de Strapping Young Lad, mais ça va se confirmer avec cette carrière en solo qu'il va entamer en parallèle, qui d'ailleurs depuis le split de Strapping Young Lad occupe toute sa vie, hein. Maintenant c'est un artiste solo, alors solo mais à travers divers projets quand même, qui lui permettent de se laisser aller, de laisser exploser sa créativité débordante, et puis ça lui permet d'expérimenter tous ses délires musicaux. Et le dernier en date, c'était Impasse en 2019, un album que j'avais trouvé absolument incroyable, que j'ai envie de qualifier de Disney Metal, parce que les morceaux qu'on trouve dans cet album, ils pourraient carrément servir de bande-son si l'univers de Walt Disney basculait tout d'un coup du côté obscur. Et là, je parle pas du rachat de Star Wars, hein. Je parle vraiment de... Voilà, si vous savez, ces légendes urbaines qui parlent des coulisses de Disneyland où il se passe des choses un peu glauques, on pourrait mettre du Devin Townsend dessus, ce serait impeccable. Bref, maintenant que je vous ai brossé un petit peu le portrait de l'artiste, venons-en à Devolution Series 2 Galactic Quarantine Live. Alors, il fait suite à Devolution Series 1 Acoustically Inclined Live, qui était paru en mars dernier. C'était un concert en live acoustique, hein, vous avez deviné par le titre, qu'avait donné le musicien à Leeds en Angleterre. Ça avait été enregistré en 2019, donc avec du public, dans le monde d'avant. Avec Devolution Series 2, on arrive dans le monde d'après, celui où il y a la pandémie qui est passée par là, qui a mis un terme aux concerts, aux tournées, mais où la musique est plus que jamais une échappatoire à l'ennui, à la morosité. Et pour compenser un petit peu toutes les dates de concerts annulées, Devin Townsend, il a fait appel à ses musiciens de tournée, donc le guitariste Wes Hoch, le bassiste Liam Neeson, le batteur Simus Policelli et le clavier Diego Tareda, pour un concert virtuel unique, puisque chacun performait de là où il était à ce moment-là. Et ils avaient pour seul décor un fond vert de cinéma. Pourquoi ? Parce que ça a permis d'ajouter un décor en réalité augmentée qui donne l'illusion que Devin Townsend et son groupe évoluent dans un univers intergalactique. Et le résultat de cette prestation qui a été diffusée en live stream le 5 septembre dernier, elle est assez époustouflante, surtout que Devin Townsend, il se réapproprie quelques titres du répertoire de Strapping Young Lad, et franchement on prend une grosse claque. D'ailleurs, écoutez-moi cette version 2020 du titre Aftermath, qui était paru à l'origine en 2003 sur l'album éponyme de Strapping Young Lad. Vous allez voir, c'est à couper le souffle. On écoute tout de suite Devin Townsend en live stream. espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage le vaisseau spatial de Devin Townsend et son équipage. Vous venez d'écouter la version live stream et totalement épique du morceau Aftermath tiré du répertoire de Strapping Young Lad et repris ici par Devin Townsend sur l'album Devolution Series 2. Galactic Quarantine Live qui est paru vendredi dernier. Alors si vous aimez le métal extrême, restez sur Back FM puisque nous allons maintenant nous engager dans la dernière ligne droite de ce Check Me Load avec trois nouveautés death. La première, elle nous vient des Pays-Bas. Il s'agit du nouvel album d'une formation connue pour avoir cassé les codes et fait évoluer le style au début des années 90. Vous aurez peut-être reconnu le groupe Pestilence qui a sorti vendredi dernier un nouvel album intitulé Exysium. Alors Pestilence, c'est un groupe qui fait ses débuts en 86 autour notamment du chanteur-guitariste Patrick Mameli, qui est le seul membre historique encore présent aujourd'hui et qui est d'ailleurs accompagné d'un line-up entièrement renouvelé qui est composé du guitariste Rutger van Noordenburg et du bassiste Joost van der Graaf, qui sont tous les deux arrivés en 2019, je m'excuse d'avoir écorché leur nom, et il y a aussi le batteur Michael van der Plitsch qui est arrivé en 2020. Alors, pour en revenir un petit peu à l'histoire du groupe, quelques temps après sa création, Pestilence va sortir deux démos qui vont attirer l'attention du label Roadrunner Records, sur lequel va sortir en 88 l'album Malleus Maleficarum. Et si Consuming Impulse en 89 est dans la même veine que son prédécesseur, à savoir un album de pure death, et bien à partir de Testimony of the Ancients en 91, on va assister à une évolution assez importante du groupe qui va choisir d'expérimenter des nouvelles sonorités, de s'orienter vers une musique plus complexe, plus technique, avec des claviers, avec des instrumentaux entre les morceaux. Et la recette, ben, elle marche plutôt bien puisque Testimony of the Ancient va devenir un album culte. Du coup, avec l'album Spheres en 93, Pestilence va décider d'aller encore plus loin et va ajouter carrément des influences jazz fusion dans son death. Ça va être de nouveau une réussite et le combo est alors promis un très bel avenir. Mais voilà, il y a des tensions qui vont apparaître entre les membres du groupe et finalement, ben, l'affaire, ça va splitter en 94 et il faudra ensuite attendre 2009 pour voir Pestilence refaire surface avec l'album Resurrection Macabre, qui marque d'ailleurs le retour des Néerlandais vers un death metal beaucoup plus académique, beaucoup plus classique. Alors depuis, le groupe a connu une autre séparation, une autre formation, puis une époque marquée par divers changements de line-up, et puis c'est une période aussi où sont sortis 4 albums, dont le dernier en date, Exitium, est tout frais de vendredi dernier. Un 9e méfait donc pour les légendes du death néerlandais, qui nous balance pleine face un concentré de ce qui a fait sa gloire à l'époque, c'est-à-dire un death technique mais accessible, accrocheur et terriblement groovy, qui est servi ici avec une production en béton armé, plus brutale, plus directe et aussi plus progressive que ses prédécesseurs parus à partir des années 2000. Exysium possède tous les ingrédients d'un futur classique de la discographie de Pestilence. Les fans qui avaient eu un petit peu de mal à adhérer aux dernières productions du groupe doivent enfin aujourd'hui se réjouir. On écoute un extrait de ce nouvel opus avec un morceau que je vais essayer de prononcer correctement. Je sais pas pourquoi j'ai choisi celui-là. Ça s'appelle Morbus Propagationem. Morbus Propagationem de Pestilence sur Back FM. Oh! le death technique de Pestilence qui fait partie des précurseurs du genre dans l'émission Check Melode sur Back FM. Vous venez d'écouter le titre Morbius Propagationem, extrait du nouvel album Excitium qui est disponible depuis une semaine, depuis le 25 juin, qui est très réussi. On peut dire que cette nouvelle décennie démarre sous les meilleurs auspices pour le combo néerlandais. Et d'ailleurs, des précurseurs en matière de death, en voici d'autres avec le groupe At The Gates qui, à l'instar d'In Flames, Dark Tranquility ou Hypocrisy, s'inscrit parmi ceux qui ont forgé le son de la New Wave of Swedish Death Metal, qui va amener donc le death vers des rivages un petit peu plus mélodiques. Alors aujourd'hui, At The Gates est de retour dans les bacs avec un 7e album qui s'appelle The Nightmare of Being, mais revenons quelques instants sur l'histoire de ce groupe originaire de Göteborg. C'est donc un groupe qui voit le jour en 90 autour notamment de Thomas Lindberg au chant, des frères Bjöller, Anders à la guitare et Jonas à la basse, et d'Adrian Erlandsson, futur membre de Cradle of Filth et de Paradise Lost, à la batterie. On découvre le death metal mélodique du combo dès 91 avec l'EP Garden of Grief qui va lui permettre de signer avec le label Peaceville Records. At The Gates enchaîne donc ensuite les albums. Alors il y aura tout d'abord The Red in the Sky is Ours en 92, et puis cette séquence va se terminer avec un quatrième album, Slaughter of the Soul, en 93, que beaucoup considèrent comme l'œuvre phare du combo. Pourtant, malgré un succès grandissant à cette époque-là, At The Gates va décider de se séparer et ne va revenir qu'en 2008, et ce sera juste dans un premier temps le temps d'une tournée d'été, puisque à ce moment-là, ils n'envisagent aucunement de retourner un jour en studio. Mais comme, c'est ce qu'on dit, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, et bien fin 2014, At The Gates sortait enfin un nouvel album, At War With Reality, qui arrivait donc presque 20 ans après son emblématique Slaughter of the Soul. Et l'accueil de ce nouvel album, il a été très enthousiaste, du coup il aura fallu ensuite que 3 ans et demi pour que le groupe dégaine le très réussi To Drink From The Night Itself, qui était jusqu'à ce vendredi 2 juillet sa dernière production en date, puisque voici The Nightmare of Being, un nouvel album produit par le maître du son suédois Jens Bogrand, un album qui est clairement tourné vers l'expérimentation, vers l'envie d'explorer de nouveaux horizons musicaux. À travers ce 7e opus, le combo suédois nous propose une sorte d'introspection basée sur la philosophie du pessimisme. Et c'est un disque sur lequel ils n'ont pas eu peur d'innover à tous les niveaux pour donner naissance à un death mélodique, alors certes brutal, mais aussi très sophistiqué, profond, inspiré, auquel ils ont mêlé énormément d'éléments progressifs qui confère au disque une dimension presque cinématique. Décidément, At The Gates, c'est une formation qui a toujours su aller de l'avant avec beaucoup d'intelligence, et le groupe signe là un album qui devrait faire date dans sa carrière. En voici d'ailleurs un extrait avec le morceau Spectre of Extinction qui donne un bon aperçu, je trouve, de la teneur de ce 7e album. Voici tout de suite At The Gates. Thank you. Écoutez l'émission Check Me Load sur Bike FM avec au programme de cette édition beaucoup de belles sorties death comme ce nouvel album des Suédois d'At The Gates qui paraît aujourd'hui. Son titre c'est The Nightmare of Being et le titre de l'extrait qui vient d'être diffusé c'est Spectre of Extinction. Toujours dans cette même veine death progressif, voici maintenant une jeune formation française qui fait de plus en plus parler d'elle et à bonne, enfin, c'est normal d'ailleurs puisque c'est très très bien. Il s'agit de Fractal Universe qui sortait vendredi dernier son troisième album intitulé The Impassable Horizon. Alors, c'est un groupe qui est basé à Nancy, Fractal Universe, qui a vu le groupe en 2014 et qui se compose de musiciens pour moitié lorrains et pour moitié franc-comtois. Ils ont fait tous leurs armes dans différentes formations locales. Alors, il y a Vince Wilkin au chant, à la guitare et au saxophone, un instrument assez inhabituel au sein d'un groupe de death. Il y a Hugo Florimont à la guitare, Valentin Pelletier à la basse et Clément Denis à la batterie. Et en 2015, eh bien, Fractal Universe va sortir un premier EP qui s'appelle Boundaries of Reality qui va lui permettre de tourner, de se forger une belle expérience scénique puisque le groupe va ouvrir pour des pointures telles que The Black Dahlia Murder ou Exodus. En 2017, Fractal Universe va sortir cette fois-ci un premier album qui s'appelle Engram of Decline qui, grâce à une couverture médiatique assez importante, va attirer l'attention du label Metal Blade Records sur lequel sortira Rhythms of Insanity en 2019, un concept album sur le thème de la folie. Puis surtout un concept album qui laisse entrevoir un énorme potentiel d'un groupe qui est en plein essor. Et puis, faut aussi le souligner, hein, entre la sortie de ces deux albums, Fractal Universe a fait partie des lauréats 2018 des Inuits du Printemps de Bourges. Alors pour la Franche-Comté, c'est pas eux qui ont gagné, mais quand même ça aussi c'est une très bonne expérience. Et donc enfin vendredi dernier, Fractal Universe a sorti son troisième album The Impassable Horizon, sur lequel on retrouve la créativité débordante et la technicité incroyable du quatuor, une technicité qui est d'ailleurs toujours utilisé avec intelligence au service de la mélodie et du riff. Redoutable également dans l'art de la composition, Fractal Universe réussit parfaitement à doser l'équilibre entre efficacité et complexité, ce qui en termes d'influence rappelle à bien des égards des formations telles qu'Opeth ou Between the Buried and Me. Alors tout comme son prédécesseur, The Impassable Horizon, c'est un concept album, sauf que cette fois-ci, eh bien, le groupe explore la relation complexe qu'entretient l'homme avec la mort et ce que ça signifie que d'être conscient de sa fin inéluctable, un thème hautement philosophique et très sombre qui permet au groupe d'affirmer un peu plus profondément son style et son identité tout en continuant à expérimenter. Je pense par exemple à l'utilisation du saxophone. Et puis c'est aussi cet album-là permet aussi d'élargir l'univers du groupe, alors qu'il est déjà extrêmement riche, singulier et maîtrisé. Mais n'empêche, hein, Fractal Universe aujourd'hui c'est sans conteste un des groupes qui fait partie des valeurs montantes de la scène death progressive hexagonale, je dirais même européenne. Voici tout de suite un extrait du nouvel album, donc The Impossible Horizon, et le morceau que je vous propose d'écouter c'est Interfering Spherical Series. Fractal Universe, valeur montante du death progressif français sur Back FM dans l'émission Check Me Load. On vient d'écouter le titre Interfering Spherical Series, extrait de l'album The Impossible Horizon, qui est paru vendredi dernier, que je vous conseille. Fractal Universe, que j'avais eu le plaisir d'interviewer en 2019, et d'ailleurs, le podcast, il est toujours disponible sur le site de Bac FM, si vous avez envie d'aller l'écouter. Et bah, ça y est, hein, je vois l'arrivée de l'étape se profiler, et qu'est-ce que ça signifie? Bah, c'est qu'il est l'heure de la rubrique finale, sortez cover, et aujourd'hui, eh bien, c'est une chanson d'Alida qu'on va écouter. Alors là, il y a certains qui se disent que je suis en train de leur faire une blague. Eh ben non, pas du tout. On va vraiment écouter un des tubes de Dalida, mais bien sûr à la sauce heavy trash, signé Furies, un excellent groupe parisien fondé en 2013 par la batteuse Zaza Batory et mené par la chanteuse bassiste Linda Bastard, groupe dont l'identité musicale se résume en trois préceptes qui sont l'efficacité du hard rock, la puissance du heavy metal et l'esprit du trash. Les influences du groupe, elles ont pour nom Kiss, Judas Priest, Vixen ou Motley Crue. Alors en octobre dernier, Furies a frappé très très fort avec la sortie de l'excellent et explosif Fortune Gate. On en avait bien sûr écouté un extrait dans cette émission, mais aujourd'hui c'est à ce qui s'est passé avant ce premier album qu'on va s'intéresser, puisqu'on va remonter jusqu'en décembre 2017, époque où le groupe Furies dévoile sa cover totalement déjantée de la chanson Mourir sur scène de l'icône de la chanson Dalida, une version que les auditeurs de France Inter vont découvrir en direct live dans l'émission Le Nouveau Rendez-vous. Alors Mourir sur scène, c'est une des chansons emblématiques du répertoire de Dalida, elle est extraite de l'album Les Petits Mots. Elle sort en 45 tours en 83, mais sur la face B du disque, hein, parce qu'elle n'est pas du tout destinée à devenir un succès commercial. D'ailleurs, au départ, Mourir sur scène, c'est même pas une chanson qui est écrite pour Dalida, mais pour Johnny Hallyday ou Michel Sardou. Elle sera juste réadaptée finalement pour la chanteuse. Et elle va devenir une chanson pourtant qui représente le mieux la fin de carrière de Dalida, qui disparaîtra 4 ans plus tard. D'ailleurs, elle va l'interpréter quasiment systématiquement jusqu'à son ultime récital en avril 87. Alors, un peu comme le Show Must Go On de Queen, Mourir sur scène, c'est une chanson qui a de fortes allures testamentaires de la part de la chanteuse qui souffre depuis longtemps de dépression. À travers les paroles, Dalida s'adresse en effet directement à la mort. Et si à sa sortie, Mourir sur scène, c'est effectivement un échec commercial, eh bien la fin tragique de Dalida va faire que cette chanson va finalement devenir mythique et intemporelle. Figurez-vous que sur Spotify, elle a déjà atteint plus de 2,6 millions d'écoutes. Sur Deezer, elle se place en deuxième position des chansons les plus écoutées de Dalida. Et sur YouTube, on dénombrait en 2018 plus de 4,1 millions d'écoutes. C'est énorme. Et puis récemment, c'est aussi une chanson qui est devenue une des hymnes des intermittents du spectacle mis au chômage forcé par la crise sanitaire. Voici tout de suite Mourir sur scène de Dalida, revue et corrigé à la sauce métal par Furies, un titre qui nous a gentiment été offert par Zaza Batory, la batteuse du groupe, que je remercie vraiment sincèrement. Merci à elle, c'est vraiment super sympa de nous offrir un titre carrément et de nous faire confiance pour faire la promo de son groupe. En tout cas, on adore. Quant à nous, si tout va bien, on se donne rendez-vous même heure, même station, vendredi prochain pour de nouvelles aventures métal. En attendant, stay metal, stay rock and roll. Salut à tous!